grande semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 10 février, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revivre en une heure les grands moments de l'actualité de la semaine, grâce évidemment au reportage de la rédaction. Ce voyage dans le temps nous conduira en Corée du Sud, en Iran ou bien encore en Syrie. Après le flash, rendez-vous évidemment avec l'Afrique et avec vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter et podcaster ce magazine sur l'application Pure Radio RFI et sur notre site www.rfi.fr. Notre invité cette semaine est François Delabarre, grand reporter et rédacteur en chef du nouveau Paris Match Afrique. Bonjour François Delabarre.
Bonjour Pierre-Edouard.
Et Paris Match donc prend un nouveau cap et décline une nouvelle version de son contenu pour l'Afrique maintenant.
Eh oui, ça vient de sortir. Ça fait quatre mois. On va sortir la cinquième édition africaine de Paris Match. Donc une fois par mois maintenant, 32 pages spéciales et une couverture dédiée sur l'actualité africaine traitée par Paris Match et par les mêmes équipes de Paris Match.
Alors on va revenir sur le dernier numéro par exemple que j'ai sous les yeux entre George Weah et les sœurs Sora, les Kardashians du Mali, comme vous le titrez. Ainsi le poids des mots et le choc des photos va se décliner en Afrique.
Bah oui, ça se décline. Déjà on en a beaucoup fait dans la longue histoire de Paris Match, on a fait beaucoup de sujets africains.
Il faut préciser que c'est un magazine, déjà je le dis pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, loin de France, qui existe depuis 1949, hein. C'est une véritable institution.
Voilà, et dans lequel on a beaucoup traité de sujets africains dans les années 70, 80, 90 et puis ces dernières années un peu moins parce que le on était plus sur l'actualité française et on a décidé de créer une fenêtre sur l'Afrique déjà pour nos journalistes parce qu'on aime beaucoup les sujets africains qui sont pas toujours publiés comme on aimerait qu'ils soient publiés, pour les photographes et les journalistes qui sont installés en Afrique qui ont souvent de belles histoires à raconter. Donc pour nous c'est une nouvelle fenêtre et puis c'est aussi un nouveau marché parce qu'il y a de plus en plus de lecteurs, que ce soit sur Internet ou de lecteurs de la presse papier, presse magazine en Afrique. Donc c'est une nouvelle aventure, d'une petite aventure qui commence dans la grande aventure de ce magazine qui va fêter ses 70 ans bientôt.
Oui, parce que moi qui aime bien, par exemple, collectionner certains numéros anciens de Paris Match, je sais qu'il y a des numéros qui ont été consacrés, par exemple, à la guerre du Biafra, à des grands sujets sur la décolonisation, justement, avec de vrais reportages sur place. Donc moi, je suis toujours ravi de voir qu'un journal français comme le vôtre, en plus Paris Match, c'est pas n'importe quoi, s'intéresse au continent africain. Et ça, je pense que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment même doivent être ravis de voir ça, quoi, de constater ça.
Avec une forme de jeunesse quand même par rapport au style d'article, à l'âge des journalistes et des photographes qui traitent des sujets. Je dis ça par rapport à une époque, justement, vous parlez de la décolonisation, où l'histoire de l'Afrique était marquée par cette décolonisation. Et aujourd'hui, il y a une génération qui accorde plus beaucoup d'intérêt
bien sûr,
à cette histoire-là. Et dans la plupart des sujets, on passe complètement à autre chose. On est dans le lifestyle, dans la culture, les célébrités et la politique et l'économie. On traite exactement. En fait, l'idée, c'est de traiter l'actualité en Afrique de la même manière qu'on la traite en France, avec les mêmes angles, le même style. Et donc, pour nous, c'est un nouveau moyen d'expression. Et d'ailleurs, au sein de la rédaction de Paris Match, il y a beaucoup de gens qui sont contents de travailler dessus, et y compris ailleurs, les journalistes sur le continent sont très contents de pouvoir raconter des histoires comme ça à la Match, dans des grandes histoires longues, avec des grandes photos sur des sujets africains.
Est-ce que ça veut dire, François Delabarre, qu'aujourd'hui l'actualité ne peut se raconter qu'à travers ce qu'on appelle les people en français ou des célébrités, qui a toujours été aussi une marque de fabrique de les célébrités plus que les people d'ailleurs de Paris Match? Est-ce que c'est maintenant une forme obligatoire de traitement de l'information selon vous?
Non, en fait, on aime bien raconter des histoires à travers des personnages. On a toujours aimé les personnages, les grandes personnalités. C'est rare de trouver un sujet sur un thème, par exemple, on va vous parler de l'économie, de je sais pas quoi. En général, on parle de quelqu'un. Après, que cette personne soit people ou pas, c'est important qu'elle soit connue du grand public parce que c'est un magazine grand public. Donc, pour la couverture, il faut avoir quelqu'un de connu de tous. Donc là, par exemple, on a pris George Weah. Voilà, George Weah, c'est un exemple parfait. Et pour les autres sujets, pas forcément des personnalités très connues, mais des personnalités qui nous racontent leurs histoires. C'est la marque de fabrique de Paris Match. Ce qui change, c'est qu'on s'intéresse uniquement, là, on s'intéresse uniquement à l'Afrique. Donc Maghreb et Afrique subsaharienne.
Sept jours dans le monde.
François Delabarre, dirigeons-nous vers la Corée du Sud où se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver. Ils ont commencé hier avec la cérémonie d'ouverture. Dans un climat de rapprochement entre le Nord et le Sud, mercredi par exemple, une cérémonie d'accueil des athlètes du Nord a été organisée, figurez-vous. Reportage de Frédéric Ojardias.
Au pied du village olympique retentit l'hymne national de la Corée du Nord, tandis que le drapeau nord-coréen est levé, un drapeau interdit en temps normal au sud. Puis la fanfare nord-coréenne interprète un air célèbre intitulé « Enchanté de vous rencontrer ». Des athlètes du Nord entament une farandole et, à la surprise générale, invitent des Sud-Coréens à danser avec eux. Un joli moment très inattendu, réaction de jeunes sudistes à la sortie.
C'était génial, je suis trop excitée. C'est une expérience tellement unique. Nous étions juste en train d'applaudir leur spectacle quand soudain, un athlète nord-coréen nous a invités à danser.
La cérémonie à peine terminée, une horde de journalistes sud-coréens se jette sur la délégation qui semble perdue et qui ne répond pas aux questions. Kim Bo-ram, journaliste, explique cet intérêt.
Leur présence est extraordinaire. Même si les deux Corées sont toujours techniquement en guerre, des Nord-Coréens traversent la frontière et viennent au sud. Cela ressemble à la paix.
Alors François Delabarre, un peu de douceur dans ce monde de brut.
Ben oui, un peu d'amitié entre les peuples qui étaient voués à se haïr et finalement qui arrivent à se tendre la main, c'est une belle histoire.
Je dois ajouter que quelques heures avant cette cérémonie, à Pyongyang, il y a eu un défilé militaire qui n'était pas retransmis d'ailleurs à la télévision nord-coréenne, donc il y a aussi cet aspect-là des choses, mais on a choisi d'être un peu plus optimiste, et puis c'est les Jeux Olympiques, ça c'est le genre d'information que vous aimeriez traiter, c'est cette façon de traiter l'actualité, j'allais dire, heureuse.
Oui, nous on avait un traitement sur la Corée, on avait fait un reportage sur la ligne de démarcation entre les deux Corées, qui est en fait une zone qui est devenue une zone écologique avec une végétation dense parce que plus aucun être humain n'y a mis les pieds depuis 40 ans et même plus 50 ans et c'était un angle original avec des très belles photos et ça aussi c'était plutôt heureux parce qu'on avait c'était une histoire très végétale mais qui était une belle histoire à raconter aussi.
Oui, peut-être que cette zone est devenue une zone d'intérêt mondial sur le plan de la nature en fait, hein, sur le plan de la préservation des espèces. Alors maintenant je vous propose de partir pour l'Iran, où au tout début de la semaine, des femmes ont voulu enlever leur voile, geste symbolique s'il en est, un geste politique également. Téhéran, Tiavosh Ghazi, lundi.
Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont publié des photos de jeunes filles dans différentes rues et places de la capitale, mais aussi en province, tête nue, brandissant leur voile au bout d'une perche en signe de protestation contre l'obligation de porter le voile islamique. Selon le communiqué de la police, les 29 personnes qui ont été arrêtées ont été remises à la justice. En effet, selon la loi en vigueur en Iran depuis la révolution islamique de 1979, les femmes, qu'elles soient iraniennes ou étrangères, et quelle que soit leur religion ou croyance, sont obligées de porter le voile à l'extérieur. Mais depuis une vingtaine d'années, on assiste à un net relâchement des mœurs et la police elle-même fait preuve de moins de zèle en la matière. Dans les rues de la capitale, mais aussi les villes de province, on peut croiser des femmes au volant sans le foulard obligatoire, alors que d'autres laissent apparaître nettement leur chevelure. Ces actions de contestation contre le port obligatoire du voile suivent l'exemple d'une Iranienne arrêtée fin décembre après avoir ôté son foulard pour le brandir au bout d'une perche dans une des artères principales de la capitale. Les autorités iraniennes minimisent ces actions et affirment que ces femmes ont été influencées par des groupes contre-révolutionnaires basés à l'étranger.
L'actualité internationale, c'est aussi en Allemagne. L'accord de coalition entre la CDU d'Angela Merkel et les sociaux-démocrates du SPD, les adhérents du SPD, doivent maintenant se décider. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de François Delabarre, le rédacteur en chef de Paris Match Afrique. Là, ces femmes iraniennes qui se dévoilent, là aussi, c'est une évolution importante pour l'Iran.
Oui, et puis c'est la preuve que les répressions violentes des manifestations ont permis d'étouffer. Voilà. Oui. ont permis d'étouffer ces manifestations, mais pas d'éteindre la colère du peuple, qui est quand même assez prégnante, et très probablement le pouvoir iranien va être à nouveau confronté à de nouvelles manifestations dans les mois à venir ou dans les années à venir.
Ce qui tendra à montrer qu'il y a un réel malaise aujourd'hui dans la société iranienne, et pas simplement pour des raisons économiques.
Oui, et à chaque fois en Iran, d'ailleurs, quand il y a eu les révolutions, ça a toujours pris du temps avant de se faire. Il a fallu plusieurs manifestations, et là, c'est peut-être le cas aujourd'hui. Le pouvoir est quand même très fragilisé.
Alors revenons à Paris Match Afrique et prenons l'exemple du dernier numéro qui vient de sortir. Hein. Il est récent.
Le prochain numéro, le 1er mars. Le cinquième numéro, le 1er mars. Ouais. En fait, c'est le premier jeudi de chaque mois.
D'accord. Et celui que j'ai sous les yeux, donc avec Jean Jouéa, c'est
celui-ci. Celui-ci est sorti début février. Voilà, c'est
d'accord.
Ça. Début
donc
février.
Il est en Afrique, là, en France.
Il est en Afrique et oui, il est en vente en Afrique.
Alors, quels sont les critères qui sélectionnent, qui vous conduisent à choisir un sujet ou un autre? Là, je vois par exemple, il y a un sujet sur le chanteur Kabil Idir qui est retourné en Kabylie récemment, un sujet sur les réfugiés nigérians, un sujet sur George Weah, sur le vaudou au Bénin. Oui. C'est très éclectique.
Très éclectique. On choisit les sujets qu'on aime avant de choisir les pays, les thématiques. Après, il y a des sujets qui tombent sous le sens, comme George Weah. George Weah, un footballeur qui est parti vraiment de rien, qui a fait sa carrière tout seul et qui a fait, après 12 années de combat politique, qui a été élu au suffrage universel. Bon, c'est un suffrage reconnu, tout est exemplaire en fait dans la carrière de George Weah. Il coche toutes les cases et c'est une personnalité mondialement connue. Donc en plus, il fait un discours d'investiture dans lequel il s'attaque à la corruption, le Libéria, qui est un pays très corrompu. S'il arrive à faire quelque chose de ce pays, qui est un petit pays, qui est encore un pays pauvre, s'il arrive à faire quelque chose de son mandat, à ce moment-là, ça peut devenir une icône. Et pour nous, c'est une personnalité à laquelle il faut naturellement s'intéresser.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons notre voyage avec vous, François Delabarre, et partons pour la Syrie maintenant. Au moins 9 civils ont été tués et des dizaines blessés jeudi dans de nouvelles frappes du régime syrien contre la Ghouta orientale, une enclave rebelle à l'est de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces frappes qui ont ciblé au moins 6 localités, selon cet observatoire, se sont produites après 3 jours de bombardements intensifs. Bilan 149 morts parmi les civils. Correspondance régionale de Paul Khalife de Beyrouth. Hier, vendredi.
Dans le fief rebelle de la Ghouta orientale à l'est de Damas, près de 220 civils ont été tués et des centaines blessés dans des raids aériens menés depuis lundi par l'armée de l'air syrienne. Pour la seule journée de jeudi, 58 civils ont péri, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a ajouté que l'aviation du régime poursuivait ses frappes sur plusieurs localités de cette vaste région assiégée, où vivent encore 400 000 personnes. Dans le même temps, les rebelles poursuivent leurs tirs de roquettes et d'obus contre Damas, faisant depuis le début de la semaine 8 morts et des dizaines de blessés. Lourd bilan également dans la province orientale de Deir ez-Zor, mais dans les rangs des troupes pro-gouvernementales cette fois. Une centaine de combattants du régime ont été tués dans des raids menés par la coalition internationale conduite par Washington. Selon la coalition, il s'agissait de frappes de légitime défense après une attaque des troupes pro-régime contre les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis. Damas a qualifié ces raids de crimes de guerre et a précisé que ces forces combattaient les djihadistes de l'État islamique à Deir ez-Zor. Les combattants visés par les avions de la coalition appartiennent en majorité à la grande tribu sunnite des Bakara, qui a juré dans un communiqué de venger ses fils.
À suivre évidemment dans nos journaux. Nous allons partir maintenant pour Israël, mais pour parler de l'Afrique. En effet, l'État hébreu veut expulser quelques 38 000 migrants érythréens et rwandais, appelés là-bas les infiltrés. Jérusalem mercredi, Guilhem Deltaï.
Devant l'ambassade rwandaise, les manifestants s'adressent directement au régime de Kigali. « Honte à toi, Rwanda », scandent-ils. Ils accusent le pays de participer à un trafic d'êtres humains David est un militant israélien.
Le Rwanda joue une sorte de sale jeu. Nous ne savons pas exactement quels sont les intérêts qui prévalent. On soupçonne qu'il s'agisse d'argent ou d'armes. Et pour chaque réfugié déporté au Rwanda, Israël s'apprête à payer 5 000 $. C'est du trafic d'êtres humains. Nous ne pouvons pas l'accepter.
Sur cette place, la foule est très largement constituée d'Érythréens et de Soudanais visés par le plan du gouvernement israélien. Un plan qu'il rejette et il demande au Rwanda de ne pas le rendre possible.
Nous ne voulons pas aller au Rwanda car le Rwanda n'est pas sûr pour nous. Je veux dire au Rwanda, s'il vous plaît, annulez cet accord avec Israël car nos vies sont en danger là-bas.
Une crainte pour leur vie largement partagée, teintée d'une interrogation. Pourquoi le Rwanda serait-il mieux pour eux ?
Nous n'avons aucun lien, ni culturel, ni traditionnel avec le Rwanda. Nous sommes érythréens. Moi, l'image que j'ai du Rwanda, c'est le génocide. C'est ça que j'ai en tête. Je ne veux pas aller là-bas.
Mais pour l'instant, le gouvernement israélien applique son plan. Il a commencé à distribuer des avis d'expulsion et il bénéficie d'un large soutien de l'opinion publique. 2/3 des Israéliens sont favorables au départ de ces étrangers.
Près de 15 000 migrants africains ont déjà quitté le pays ces 5 dernières années. Partons pour l'Afrique justement pour nous intéresser aux réfugiés, comme vous le faites d'ailleurs dans un numéro de Paris Match Afrique. François, on va y revenir dans un instant. Le HCR en effet a besoin de 391 millions de dollars en 2018, cette année, pour venir en aide aux 430 000 Burundais réfugiés dans les pays voisins, c'est-à-dire la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Cette année, l'organisation estime à 50 000 le nombre de nouveaux réfugiés burundais. Comment on arrive-t-elle à ce chiffre? C'est ce qu'a demandé Pierre Pinto à Babar Balok, le porte-parole du HCR.
Tous les efforts déployés par l'Union africaine et les autres pour tenter de résoudre la crise au Burundi sont dans l'impasse. Nous avons vu l'année dernière que plus de 61 000 Burundais ont été forcés de quitter leur foyer par crainte d'être persécutés. Au cours de l'année à venir, nous estimons que 50 000 personnes supplémentaires devraient arriver dans les pays voisins. Ce que nous avons vu l'an dernier, c'est que chaque jour, il y avait en moyenne plus de 150 réfugiés burundais qui arrivaient dans ces pays voisins. On s'est basé sur cette tendance et cette moyenne. Il s'agit d'un chiffre de planification, mais on estime que plus d'une centaine de réfugiés continueront d'arriver chaque jour dans les pays voisins. C'est un petit nombre, mais c'est un flux qui ne s'est pas tari depuis le début de la crise en 2015.
François Delabarre, vous consacrez 2 pages dans le dernier numéro de Paris Match Afrique, le numéro 4, celui qui est en Afrique justement, à ce que vous appelez, ce que l'on appelle les revenants du Nigeria.
Tout le monde se souvient de le film qui a été diffusé sur CNN sur les marchés aux esclaves en Libye. Oui. Alors on a parlé de ça pendant une semaine, pendant 15 jours, et puis après tout d'un coup, boum, on n'en parle plus. Et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc c'est important quand même de revenir dessus, parce que c'est une réalité qui se poursuit aujourd'hui. Et malgré toutes les annonces qui ont été faites, je me souviens d'Emmanuel Macron annonçant une task force. C'est vrai que le Nigeria a fait revenir quelques migrants qui étaient bloqués en Libye. Mais en fait, le problème n'est pas du tout réglé aujourd'hui, peut-être qu'il le sera pas, mais c'est important de s'intéresser et de raconter les histoires de ces personnes, en particulier qui viennent du Nigeria, parce que là on a eu beaucoup de témoignages, et de raconter ce qu'ils traversent quand ils traversent la Libye, et tout ce qu'on a raconté sur les esclaves, sur les viols, ça continue encore aujourd'hui, ça va pas s'arrêter. Et en plus c'est une histoire qui dure depuis des années, ça date pas de la chute de Kadhafi, c'était pendant Kadhafi, c'était avant, enfin pas avant Kadhafi, ça fait 50 ans qu'il y était, mais c'est juste l'histoire qui se poursuit, et le même calvaire pour tous ceux qui traversent la Libye.
Les réfugiés, c'est un domaine qui vous intéresse. Il me semble que vous avez fait un reportage sur Lampedusa aussi.
Oui, c'est ça. Ouais, on avait fait plusieurs sujets. Et d'ailleurs, celui qui a raconté celui qui rapporte le témoignage au Nigeria est lui-même un ancien réfugié que j'ai rencontré pendant un reportage et qui lui avait été rapatrié, renvoyé par les Italiens en bateau en Libye. Et maintenant, il est à Benin City, dans le sud du Nigeria, et c'est lui qui travaille pour nous, en fait.
François Delabarre, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures, et on se retrouve dans quelques 3 minutes. À tout de suite.
À tout de suite.
Merci pour toutes ces informations. Poursuis-nous notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et en compagnie d'un confrère, François Delabarre, le rédacteur en chef du magazine Paris Match Afrique. Dans un instant, nous parlerons Afrique justement, François, mais évoquons l'actualité française en quelques minutes d'abord.
Une semaine d'actualité.
Et pour commencer, ce que je retiens, c'est le voyage du président Emmanuel Macron en Corse. C'est la fermeté dont il a fait preuve face aux nationalistes. Bastia Valérigas, mercredi.
C'est à la fin de son discours, après avoir parlé près d'une heure, qu'Emmanuel Macron a répondu à l'une des principales attentes des nationalistes corses.
Je vous annonce solennellement aujourd'hui que je suis favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution et que des dispositions en ce sens seront proposées dans le projet constitutionnel qui sera soumis au Parlement au printemps.
Un accord de principe et des modalités à définir. Gilles Simeoni, très déçu de l'attitude du chef de l'État durant sa visite en Corse, lui a rétorqué.
Cette inscription doit pour nous se prolonger de la définition avec l'ensemble des forces vives de l'île d'un statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice.
Le bras de fer continue donc entre Emmanuel Macron et les élus de Corse auxquels il a dit non sur le statut de résident, la fiscalité et la langue.
Le bilinguisme, ça n'est pas la co-officialité. Dans la République française, il y a une langue officielle, et c'est le français.
Emmanuel Macron a réaffirmé que pour lui, la Corse était au cœur de la République et il a un peu fait la leçon aux élus de la collectivité sur leur gestion des dotations de l'État. Il a ainsi mis en garde ceux qui veulent changer la fiscalité.
Comment souhaiter une autonomie fiscale et en même temps demander encore plus à la solidarité nationale ?
Le fond et le ton du discours ont donné à Jean-Guy Talamoni un sentiment d'amertume.
Je crois que les Corses ont été humiliés.
Emmanuel Macron repart sur un constat de désaccord profond.
Ça y est, les militaires vont avoir plus de moyens d'ici 2025. C'est ce que prévoit en tout cas la prochaine loi de programmation militaire, la LPM, Olivier Four.
Priorité affirmée pour la modernisation de la dissuasion nucléaire. Nouveaux sous-marins, avions ravitailleurs et missiles futurs. Elle sera lancée dans les 5 ans, a annoncé Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées. Les crédits alloués à la dissuasion vont passer de 4 milliards en 2017 à 6 milliards en 2025. Le renseignement et la lutte cyber devraient aussi bénéficier d'investissements durant la période. Les études d'un futur porte-avions seront financées. Problème, la facture des matériels déjà commandés durant le quinquennat de François Hollande va peser lourd. Cette année déjà, on estime que plus des 3/4 de l'enveloppe destinée aux équipements servira en fait à couvrir les engagements antérieurs. La loi de programmation militaire devrait toutefois voir l'accélération de certaines commandes, tous azimuts, comme celle des blindés Griffon, qui ont l'avantage d'être fabriqués en France, les pétroliers ravitailleurs ou les petits patrouilleurs pour la marine, quelques avions ravitailleurs en plus pour l'armée de l'air, alors que l'armée de terre bénéficiera d'une LPM dite à hauteur d'homme pour améliorer les conditions de vie et l'entraînement, la protection et l'équipement du soldat français. Il faudra pas moins de 10 ans pour que l'ensemble des régiments de l'armée de terre reçoivent le fameux fusil HK-416 commandé en Allemagne.
Revenons, François Delabarre, sur le grand foie de ces derniers jours. Non pour parler des difficultés de certains automobilistes bloqués ou de certains voyageurs, mais pour évoquer le sort de ceux qui sont dans la rue et qui ont souffert ces derniers jours. Écoutez ce reportage d'Ariane Gaffuri.
La camionnette du SAMU social s'arrête à côté de Franck et Gabriel, deux sans-abri allongés sur le bitume et enfouis sous une bâche en plastique. Nicolas du SAMU social tente de les convaincre à accepter un hébergement d'urgence.
On y va ?
C'est un vieux de la veille, Franck.
20 ans, je suis dans la rue.
Ça fait 20 ans que vous êtes dans la rue ?
Oui. J'avais très peur.
Et du coup, Franck, viens dormir ce soir à Romain Roland.
Oh, Gabi !
Gabriel somnole et ne veut pas être dérangé.
Réveillez-toi !
Laisse tranquille à moi. Je m'en fous.
Bon, vous êtes sûr que vous voulez pas venir ?
Non. J'ai pas bien mais voler les vêtements, mais voler les chaussures.
Attends, non.
Moi, préféré à la rue.
Enfin, Gabriel, elle t'a amené une soupe, la dame,
oui,
tu veux ?
Deux résidents sont venus apporter des soupes.
Oui, laisse-les à côté.
Elle est chaude, hein ? Faut la prendre chaude.
Bon, Franck ?
Non ?
Bon, par contre, mettez-vous dans les duvets, les gars, là.
Ben oui.
Nous, notre but, c'est de les ramener vers le système d'aide. Et en allant les voir alors qu'ils veulent pas, c'est le meilleur moyen de les braquer. Il faut vraiment leur laisser leur liberté parce que c'est ce qui leur reste, quoi.
Franck et Gabriel avaient une place en hébergement. Mais en général, il n'y en a pas assez en Île-de-France pour accueillir tous les sans-abri.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de François Delabarre, grand reporter à Paris Match, rédacteur en chef de Paris Match Afrique. Il faut ajouter à ces informations françaises l'information du nouveau magazine L'Hebdo sur Nicolas Hulot, ces derniers jours, visé par une plainte pour violence sexuelle. Cette plainte a été démentie par l'intéressé. Et on sait depuis hier que la femme qui a porté plainte n'est autre que Pascal Mitterrand, la petite-fille de François Mitterrand et la fille de Gilbert, un des fils donc de François Mitterrand. Pascal Mitterrand est l'auteur de la plainte déposée en 2008 contre Nicolas Hulot, mais elle n'a jamais, dit-elle, souhaité médiatiser l'affaire révélée donc par la presse, une affaire dont on parle beaucoup ces dernières heures. Vous voulez revenir sur les difficultés de l'armée que vous avez vu, constater lors de reportages en Afrique?
Oui, j'ai pu constater que le matériel des militaires français en Afrique n'est pas toujours adapté au terrain, et les hélicoptères par exemple ont eu beaucoup de difficultés, et le matériel est vieillissant, donc c'est très important, je pense, pour les soldats aujourd'hui d'avoir une loi de programmation militaire qui permette de rénover ces équipements, d'autant plus que ça avait fait l'objet d'une grande crise l'été dernier avec la démission du chef d'état-major. C'était la première crise Emmanuel Macron, c'est la première crise qu'il a dû affronter, ça lui a coûté 10 points dans les sondages, donc cette face-à-face qu'il a eu avec son chef d'état-major était difficile, c'est pas la chose qu'il a mieux réussi, mais aujourd'hui avec la LPM, je pense qu'il entend faire oublier tout ça et promettre des moyens à une armée qui en a besoin.
Ouais. Alors revenons à Paris Match Afrique, François. À l'heure où nous parlons, on peut le trouver où le magazine en Afrique?
Alors 21 pays d'Afrique francophone et dans les aéroports. À Paris, Charles de Gaulle, terminal 2E, et à Orly aussi. Donc nous sommes présents dans tous les pays, dans la plupart des pays d'Afrique francophone en fait, dans les librairies, dans les points de vente habituels.
Avec, disiez-vous, des points forts qui sont le Maghreb, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon.
Voilà, qui sont les pays où on est le plus lu. Et le Sénégal également, mais pas en ce moment en kiosque. Donc on peut aussi retrouver sur Internet tous les articles. Et on voit d'ailleurs sur Internet que certains articles marchent très bien. Ce qui prouve qu'on a quand même beaucoup de lecteurs en Afrique de plus en plus. On peut le mesurer chaque jour. Parfois, un article peut avoir 100 000, 150 000 lecteurs, alors qu'il n'attire aucun lecteur français, parce qu'on parle d'une actualité africaine et purement africaine, comme d'une présentatrice de télé en Algérie ou d'un entrepreneur en Côte d'Ivoire, des choses comme ça.
Parce qu'il faut rappeler que cette idée de faire ce magazine, ce supplément africain, est venue de l'internet, en fait, de votre site.
On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de lecteurs en Afrique et de plus en plus. Donc là où il y a une
dynamique... Ça vous a étonné?
Ah oui, ça nous a étonné. Moi, ça m'a étonné à titre personnel parce que j'ai écrit un article sur le Niger il y a 2 ans. Et l'article en France n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les Français et on a eu 30 000 lecteurs. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de lecteurs sur Internet. Il n'y a plus de frontières sur Internet. Et c'est vrai que la francophonie, quoi qu'on en dise, c'est un espace qui est énorme et qu'on a tort de ne pas investir parce qu'on parle juste la même langue. Donc comme on parle la même langue, c'est plus facile de communiquer. C'est quelque chose de naturel. Quelle que soit l'histoire qu'on a eue, on a cette chance de pouvoir s'exprimer dans la même langue. Et donc, on voit quand on parle d'un article que tout de suite, il y a une réactivité et on voit que l'Afrique est dynamique par le dynamisme sur Internet qui, en France, c'est pas du tout, y a pas du tout la même énergie.
Mais là où je trouve que le choix est audacieux, François Delabarre, c'est que vous êtes passé de l'Internet à l'écrit, ce qui est devenu rare aujourd'hui.
Ouais, ça, c'est un choix qu'on a fait. C'est vrai que c'est audacieux et en même temps, on est vraiment content de le faire parce que c'est avec le papier que Paris Match est vraiment Paris Match. Et c'est là où nos lecteurs...
Le poids des mots, le choc des photos, je reviens à ça.
Voilà, mais ça reste. Hein. Depuis, on a essayé d'autres slogans qui n'ont pas marché. Quand on a un slogan qui marche, il marche. Donc, ça marche. Et parce que comme il y a du papier, et c'est là où on se rend compte de la réalité du magazine et de la réalité, surtout de l'implication en Afrique, et qu'on a envie de s'installer de manière pérenne dans l'univers de la presse en Afrique, parce qu'on pense qu'on a notre place.
En tout cas, nous sommes ravis d'accueillir un représentant d'un magazine qui ose s'intéresser à l'Afrique et qui ose se déployer en Afrique, ce qui est rare.
Il y en a de plus en plus. Ouais, c'est vrai.
Ce qui demeure rare, mais c'est vrai. Effectivement, les choses changent petit à petit.
Ouais, tout le monde se rend compte que l'Afrique est un lieu important pour la presse française. En fait, la presse française a besoin de lecteurs africains. Thank you.
pour nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Et voici quelques dédicaces, comme chaque samedi matin, François Labarre. Un salut d'abord à Léo qui nous écoute à Genève. Bonjour à Christine qui est une fidèle auditrice à Cotonou. Bonjour à Hippolyte. Ce qui me frappe, c'est le Tchad, écrit-il. Comment cet État s'est-il endetté jusqu'à ce point pour se retrouver dans l'incapacité de payer les salaires malgré le pétrole, écrit-il. Un salut à Taïrou. Alors lui voudrait mettre en place dans sa ville, Mopti, une association dénommée Association d'une semaine d'actualité. Je n'y vois que des avantages. Merci, Taïrou. Un bonjour également à Mokhtar, à Richard Toll au Sénégal, effaré, dit-il, par l'absence, selon lui, de présomption d'innocence à l'endroit de Khalifa Sall, le maire de Dakar, dont Guillaume Thibault nous narre au jour le jour le procès, un procès politique, selon Mokhtar. Bonjour enfin à Jules, à Afania Aneo au Togo et à Jonas à Lubumbashi.
Semaine d'actualité.
Et partons pour le Maroc, François Delabarre. Des milliers de personnes ont manifesté il y a une semaine à Jerada, dans le nord-est du pays, où une grève générale a été observée au lendemain de la mort d'un mineur dans un puits clandestin de charbon. Sa mort porte à 3 le nombre de victimes dans ces mines de la mort, comme on les appelle depuis décembre. Reportage de Sarah Doublier.
Peu avant la marche du jour, un groupe de près de 20 jeunes s'affaire devant une fresque. Des chariots de charbon transportant des corps inertes, des hommes ventripotents fuyant avec des sacs d'argent. Abderrahim, la vingtaine, supervise les équipes.
On est en train de faire s'assommer des dessins qui dévoilent la vérité de cette ville. On demande un changement économique. Il y a des gens ici qui sont avec des diplômes. Moi-même, j'avais des diplômes. 3 diplômes, je ne travaille pas, il n'y a pas de travail.
Ce jour-là, le point de départ de la marche est donné dans un des plus grands quartiers de la ville, Massira. Organisé en comités locaux, les manifestants établissent chaque semaine un programme d'action. Saïd Zeroual est militant de l'Association marocaine des droits de l'homme.
Ça fait un mois, dès la mort des 2 victimes, des mines clandestins, Hussein et Jdouane. Les habitants de Jerada sortent chaque jour dans des manifestations et des marches. Et ces 2 dernières semaines, ils ont fait des programmes. Par exemple, hier, ils ont décidé de mettre des brancards noirs. Et la semaine passée, ils ont décidé une marche de 3 fois par semaine.
Lors des rassemblements, chacun tient son rôle. Des hommes et des femmes, affublés de gilets phosphorescents, encadrent les cortèges. Aucune présence policière n'est visible, si ce n'est pour assurer le bon déroulement de la marche, qui rassemble ce jour-là au moins 3000 participants. Parmi eux, Mustapha, sans emploi, revenu il y a quelques années d'Espagne.
Ici, les gens veulent tous travailler pour manger, rien de plus. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Ils travaillent dans le charbon, c'est très dangereux, pour presque rien.
Des manifestants qui exigent un plan d'embauche massif pour les jeunes, la révision des tarifs d'électricité jugés exorbitants et l'ouverture d'une enquête pour juger les responsables de la non-reconversion de la région. Car pour Asma, natif de Jerada, cette situation n'a que trop duré.
Les gens de Jerada ne trouvent pas de quoi manger, ils ne trouvent pas de solution pour travailler et ils en ont vraiment assez. Et c'est pourquoi ce mouvement de contestation ne vient pas de nulle part.
Après 2 visites gouvernementales sur place, les autorités ont annoncé un vaste plan d'embauche immédiat de 3000 personnes et la fermeture prochaine des puits de charbon. Des annonces qui n'ont pas convaincu les manifestants, toujours mobilisés pour mettre fin à ce qu'ils nomment les mines de la mort.
L'actualité africaine, ce sont aussi des violences post-électorales en Guinée. On vous en parle bien sûr dans nos journaux. Traversons le continent maintenant, François Delabarre. Partons en effet pour l'Afrique du Sud où la population s'impatiente et attend le départ annoncé depuis des mois du président Jacob Zuma. Reportage de Noé Ochet-Boda.
Partira, partira pas. La démission de Jacob Zuma est souvent annoncée comme imminente mais incessamment repoussée. Un feuilleton interminable qui fatigue Avril, une retraitée du secteur médical.
C'est à cause de toutes ces affaires. Maintenant, on veut lui dire au revoir et il est temps de partir. Mais il est têtu, je pense qu'il ne croit pas lui-même avoir commis des erreurs.
Au-delà de l'entêtement du président, c'est son égoïsme assumé qui choque Quetta, une community manager de 28 ans.
He's done so much damage.
Il nous a fait tellement de mal. Le pire avec Jacob Zuma, c'est que son manque d'intelligence est criant et qu'il est ouvertement égoïste. Il ne s'intéresse pas à l'intérêt national.
Zuma est surnommé le président Teflon tant il a su s'accrocher au pouvoir par le passé. Pamandla Kamboulé vend des poteries dans un centre commercial de Johannesburg. Résigné, il affirme que Jacob Zuma réussira à se maintenir.
Il est encore le président, il est encore puissant, il a encore beaucoup de soutien. Donc pour être honnête, je pense que c'est impossible de partir pour lui. C'est tout ce que je peux vous dire.
S'il parvient à résister aux pressions de l'ANC, Jacob Zuma fera face à ce qui sera la 10e motion de défiance contre lui à la fin du mois.
Suite d'une semaine d'actualité, François Delabarre, vous vouliez intervenir sur ce que vous avez entendu au Maroc. C'est l'autre face de l'image projetée du Maroc.
Oui, et puis en plus, on avait déjà vu ça il y a quelques mois. C'était à Oseima, un poissonnier clandestin qui avait été contrôlé par la police et puis qui avait été avalé dans une benne à ordures. C'était des images atroce et qui avait provoqué des grandes manifestations qui ont duré pendant des semaines, oui. Et dont le leader en plus doit être jugé ces prochains jours. Donc c'est intéressant de voir que dans la même région, pour des raisons similaires, de nouvelles manifestations vont encore éclater. Et tout ça, c'est à la base, c'est surtout des problèmes économiques. Donc c'est là aussi, comme en Iran, on est dans un pays où les manifestations s'arrêtent et puis recommencent. Donc c'est un problème de fond qu'il faut régler.
Alors je continue à feuilleter le numéro 4 de Paris Match Afrique avec vous. Et là, je vois un reportage assez fascinant sur les mystères du vaudou au Bénin.
Ouais, c'est super.
Un petit pays, écrivez-vous, de 11 millions d'habitants. Chaque année, depuis 1993, une fête nationale célèbre ce culte.
Et ce que je ne savais pas, c'est que le vaudou était religion officielle du Bénin et que c'est le seul pays dont le vaudou est la religion officielle. Et c'est vachement intéressant de voir comment le Bénin veut s'approprier, redonner toute son importance à une religion qui a été un peu passée sous silence pendant des décennies, un peu diabolisée et qui est partie intégrante de la culture locale, puisqu'au Bénin il y a autant de vaudous que de musulmans, que de chrétiens d'ailleurs, et puis avec des syncrétismes. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on apprend dans l'article, c'est que il y a beaucoup de conversions au vaudou, et c'est une culture qui est en train de reprendre de l'importance au Bénin. Et ils attachent beaucoup d'importance à cette religion parce qu'elle a aussi, c'est aussi par rejet l'occupation de la période coloniale pendant laquelle ils ont été évangélisés ou ils ont été convertis à l'islam. Et en fait, le vaudou, c'est la religion des Africains. Enfin, c'est de cette manière-là qu'ils la présentent, et c'est une religion très intéressante. Là.
Avec photos, évidemment, qui montrent justement ces pratiques vaudou, donc à lire dans ce numéro.
Sept jours en Afrique.
Et parlons maintenant du Kenya, François Delabarre. Deux des trois chaînes de télévision kenyanes suspendues d'antenne depuis le 30 janvier pour avoir tenté de retransmettre l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga ont repris lundi leur diffusion. Cette interruption sans précédent en dit long sur la tension qui règne toujours au sein du gouvernement à Nairobi, où nous rejoignons Sébastien Demet.
Même si les relations entre le pouvoir kényan et les médias n'ont rien d'un long fleuve tranquille, une coupure brutale des émetteurs, c'est du jamais vu depuis des années. Pour Linus Kaikai, manager général de NTV, cet acte rappelle le temps de la dictature.
Ça ne correspond pas à notre époque. Durant les heures sombres, il y avait même des lois justifiant le viol de la liberté de la presse ou criminalisant l'imagination. Là, on voit un pouvoir qui agit totalement en dehors des textes. Nous avons une constitution, des codes, des institutions. Elle ne compte pas en ce moment. Quand ça va dans son sens, le gouvernement appelle au respect de la loi.
Linus Kaikai et deux confrères ont même dû passer une nuit au bureau par crainte d'arrestation et ont dû aller en justice pour qu'un magistrat ordonne qu'on les laisse tranquilles. Mais outre l'atteinte aux libertés, la coupure touche les médias au portefeuille. Tom Chindi, rédacteur en chef à NTV.
Ça a entraîné de grandes pertes, notamment en termes de recettes publicitaires, car nous sommes une chaîne privée. On ne tourne plus de pubs, on en diffuse plus, ça représente beaucoup d'argent, en moyenne 50 à 100 000 dollars par jour.
Selon plusieurs sources, la prestation de serment de Raila Odinga a ulcéré le pouvoir. Coupure des médias, plusieurs opposants arrêtés, et hier encore, dispersion au gaz lacrymogène d'une marche pacifique à Nairobi. Autant de signes inquiétants pour les défenseurs des droits de l'homme.
is NTV.
Pour conclure notre voyage africain cette semaine, il vous faut savoir que des artistes ouest-africains mobilisés contre l'immigration clandestine sont à l'œuvre, en partenariat avec l'OIM, c'est-à-dire l'Organisation Internationale des Migrations, et autour de la diva sénégalaise Kumba Gallo. Une dizaine de chanteurs participent à un clip pour mettre en garde les jeunes contre les risques de départs illégaux. Charlotte Hydrac.
Mon ami, ne te décourage pas, ne risque pas ta vie. La chanson est directe, en wolof, en français et en arabe. C'est aussi une déclaration d'amour à l'Afrique. Kumba Gaolo.
Nous lançons un message de patriotisme, de foi envers son continent. Et notre message s'adresse d'abord à la jeunesse, aux parents et à nos dirigeants.
Et dans le refrain, les artistes le martèlent, l'immigration c'est bien si elle est légale.
Il y en a qui ne sont jamais sortis de leur village. Quelqu'un qui va comme ça, qui arrive plaque dans un pays où il n'a jamais compris ce qu'il attendait, devient complètement paumé. Migrer c'est très bien parce que ça te permet de métisser ta tête, mais il est meilleur de le faire tout en sachant dans quelles conditions.
Informer, sensibiliser en musique, est-ce que cela peut vraiment inverser la tendance? Pour Jolene Robertson, chef de mission OIM Sénégal, c'est un premier pas.
Les trafiquants, les passeurs, ils ont leur propre campagne informative. À travers notamment les réseaux sociaux, on a entendu parler de migrants qui pensaient traverser une rivière. Il est donc primordial d'informer.
Informer et aussi éduquer, les artistes le chantent, l'éducation c'est la base.
On se laisserait entraîner par la musique, François Delabarre, mais il faut conclure cette émission quand même. Et je voudrais qu'on parle d'un des reportages de ce dernier numéro de Paris Match en date, Paris Match Afrique. Et là, on est un peu raccord parce que vous consacrez un reportage, Anthony Fouchard, un long reportage aux sœurs Sora, qui sont, dites-vous, les Kardashians du Mali.
Oui, elles sont comme les sœurs Kardashian aux États-Unis. Elles sont célèbres parce qu'elles sont célèbres. On les connaît parce que c'est leur notoriété qui les rend célèbres, mais elles font rien de particulier. Elles se montrent dans
c'est
les
pour
soirées.
Ça qu'elles sont célèbres.
Elles sont, voilà, c'est ça. C'est ce qui est génial comme concept, en fait.
Ouais.
Et c'est là, elles sont sur les réseaux sociaux. Elles vont dans les soirées. Elles se font prendre en photo. Évidemment, avec beaucoup de, un peu de chirurgie esthétique, ouais. Beaucoup de maquillage et un soupçon de vulgarité. Mais c'est ça qui fait leur charme, comme pour les sœurs Kardashian, on va dire. Et puis c'est des femmes d'affaires aussi, faut pas ce que Anthony Fouchard explique très bien derrière le côté spectaculaire de ces poupées, il y a une envie de faire du business, de créer des marques, de monétiser cette célébrité, puisqu'au final, c'est à ça que ça sert. Mais nous, ça nous amuse, et ce qui est marrant, c'est de voir qu'au Mali, qui est un pays dont on parle pour d'autres actualités, il y a aussi des personnalités comme ça, qui sont un peu provocatrices, et puis elles sont à Bamako, et puis elles sont très connues à Bamako, et puis elles ont l'air d'être plutôt heureuses, donc c'est une actualité heureuse, c'est décalé, mais c'est une actualité heureuse, donc nous, on aime bien parler de ça.
Mais ça, je trouve que c'est important, parce que c'est vrai qu'on peut pas réduire non plus un pays à une guerre, à une crise économique. Et à l'économie.
Mais oui, c'est beaucoup plus, et puis c'est la réalité. On n'est pas, on raconte des choses vraies, comme c'est la base du journalisme. Tout ce qu'on raconte doit être vrai. Donc ça, c'est vrai. Il y a trois sœurs qui sont les sœurs Kardashian qui sont au Mali et dont tout le monde, beaucoup de Maliennes rêvent. Et en dehors du Mali, puisqu'elles donnent une image qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir du Mali.
Alors il faut citer leur nom quand même. Diaba, ouais. Qui a 35 ans, Koudé Dia, qui en a 23, et Moussou, qui en a 31. Je ne savais pas qu'on parlerait un jour de ces trois jeunes filles. Dans une semaine d'actualité, mais tout arrive grâce à vous.
Photographié dans un palace de Bamako par Nicolas Réméné. Et c'était très difficile de trouver l'endroit qui leur plaise parce qu'elles ont beaucoup d'exigences, ces sœurs Sora.
En plus. Alors, comment se fait l'équilibre des sujets dans chaque numéro? Parce qu'il en faut un petit peu pour tous les goûts, non?
Il faut qu'on trouve une répartition entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, surtout. Parce qu'on a des lecteurs dans les deux régions. Après, on faut pas négliger les pays où on est le plus lu. Et puis ensuite, on choisit en en fonction des sujets, des personnalités qui nous plaisent. Le premier critère, c'est le sujet qui nous plaît. Donc c'est la personne, c'est l'article, c'est la photo. Et en fait, on a exactement comme quand on fait Paris Match en France, il y a un sujet qui nous plaît, on le passe. Et puis bon, ensuite, on crée l'équilibre habituel entre le people, l'art de vivre, la culture, très important, la musique, et puis la politique, l'économie. C'est le même équilibre que dans Paris Match.
Merci François Delabarre. Donc il faut lire votre magazine Paris Match Afrique dont vous êtes le rédacteur en chef. Et merci encore d'avoir eu le courage éditorial de vous intéresser par écrit à l'Afrique, au continent africain.
Pourvu que ça dure.
Comme vous dites, une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée cette fois. Nous parlerons de la vie et de l'œuvre d'Henri David Thoreau avec notre invité spécialiste de cet écrivain et philosophe américain représentant du transcendantalisme, auteur par exemple de Walden ou La vie dans les bois. Demain dimanche, 17h10 heure de Paris et 15h10 temps universel si vous nous écoutez justement sur le continent africain, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.